c'est?
Hein? What?
Voilà.
Qu'est-ce que j'avais oublié de faire?
Mute.
Oh là là. Terrible. C'est bien la technique. Quand ça marche. Bonjour à tous.
Salut Denis.
Vous allez bien?
Oui. Dieu merci.
Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui devrait peser sur nos cœurs. Est-ce que vous connaissez les quatre éléments? L'eau, le feu, la terre, l'air. Ok. Vous savez que pour nous chrétiens, on a un cinquième élément. Vous connaissez le cinquième élément? Vous êtes allé voir Luc Besson? Luc Besson, hein, je ne vais pas vous parler de Lilou ni de Bruce Willis, pour ceux qui connaissent le film. Qu'est-ce qui se passe?
Puisque là, ça va être bousillé.
Ah là, ça va être bousillé. En plus, je bousille. C'est grave, docteur. Qu'est-ce qui... Oh là là. Je sais pas si je vais revenir, les gars. Tu cherches quoi? Ouais, mets-la dedans. Là. Là, c'est bon. Ça, merci tous. Super. Ça, ok. Donc, il y a un cinquième élément qui, pour nous, les chrétiens, devrait peser lourd dans la balance. Pour autant qu'on comprenne bien sa signification. Vous savez de quoi je vais parler? Non? Le sang. Le sang. Parce que le sang, si vous étudiez la Bible et que vous regardez, il est présent depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'importance du sang dans notre foi et dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du peuple de Dieu a eu une importance très particulière. Et ça, depuis le début, depuis la Genèse. On voit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils réalisent d'un seul coup, leurs yeux sont ouverts et ils connaissent qu'ils sont nus. Waouh! Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des feuilles de figuier et s'en font des ceintures. Et ils se cachent. Ils essaient de couvrir leurs fautes. Parce qu'en fait, c'est ça. Ils essaient de couvrir leurs propres fautes et se cachent de Dieu. Parce que et Dieu se promène dans le jardin, il sait très bien où ils sont. Et il dit Adam, t'es où? T'es où? Hein? Et qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu va commettre le premier sacrifice animalier. Il va tuer un animal et couvrir Adam et Ève pour que leur faute ne leur pèse pas trop dessus. Ça, c'est la première chose. Sauf que c'est Dieu qui couvre l'homme. C'est pas l'homme qui se couvre lui-même. Et vous verrez, c'est vraiment le point important tout au long de l'histoire et tout au long de notre foi de bien comprendre cette chose-là. Ensuite, si on continue la lecture et qu'on va se promener dans l'Exode, Moïse reçoit des commandements de Dieu. Et il les partage, bien sûr. Et il y en a un qui est intéressant, c'est celui qu'il va donner à Aaron. Il va lui dire une fois chaque année, Aaron, tu feras des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Et il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Donc, Dieu donne à l'homme le moyen d'expier ses fautes. Qu'est-ce que ça veut dire, expier? Réparer. Dieu répare les fautes de l'homme. Hein? Il répare, il lui dit, ouais, bon, t'as fait ça, bah, chaque année, tu vas venir au temple, le principal sacrificateur va sacrifier un animal pour toi, et ta faute sera expiée. Tu seras réparé. C'est joli. C'est beau ce que fait Dieu. Parce qu'il sait très bien que depuis le péché d'Adam et Ève, le péché est dans nos gènes. C'est une corruption qui est rentrée au fond de nous et qui est là et qui est grave. Que celui qui vient me dire le contraire vient de me voir après, on discutera de tout ça. Mais on est foncièrement ancré humainement dans le péché. Notre chair est pécheresse. Quand un bébé vient au monde, il est pécheur déjà. Il est pécheur. Hein? Les enfants, il n'y a pas besoin de leur apprendre à mentir. Ils savent très bien, très très vite. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que c'est notre condition d'être humain, d'être humain après la chute, après la désobéissance primaire. On va dire ça comme ça. Il y a une autre histoire qui est très intéressante dans l'Ancien Testament. Vous savez, l'histoire de Joseph, vous la connaissez. Joseph est vendu par ses frères. Il part en esclavage. Il est vendu à Potiphar. Sa femme a le béguin pour lui. Essaie de l'attirer dans son lit. Il résiste. Il est accusé faussement et il va en prison. Et il va passer quelques années en prison. Et heureusement que dans la prison, il y a deux gars. Il y a le gars qui présente le vin à la table de Pharaon et puis le panetier, celui qui présente le pain. Et ces deux-là, ils ont un songe. Et Joseph a la capacité, le don d'expliquer les songes. Et il va expliquer les songes à ces deux gars. Et puis il leur dit, quand vous serez dehors, rappelez-vous de moi, quoi. Faites quelque chose, parce que ça fait quand même quelques mois que je pourris là-dedans. J'aimerais bien sortir de là. Et ils oublient, jusqu'au jour où Pharaon a un songe. Et là, c'est le panetier, je crois, celui qui est toujours en vie, c'est le panetier ou c'est celui qui donne le vin, ça ne m'étonne pas, c'est le meilleur. Donc, il est toujours en vie et il va voir Pharaon et il lui dit, mais écoute, il y a quelqu'un qui pourrait interpréter ton songe, parce qu'il a fait venir tous les devins, les astronomes et tout ça pour expliquer, ils ne savent pas. Et Joseph arrive et il explique le songe, c'est l'histoire des 7 années de famine où il va falloir engranger du riz, du blé pour que les gens puissent manger. Et il va expliquer tout ça. Et du coup, Pharaon est tellement surpris par l'intelligence de ce gars et sa façon de faire qu'il dit, mais viens, sors de ta prison déjà et reste avec moi, tu seras mon premier ministre. En gros, c'est ça qu'il lui dit. Et donc, ensuite, vous connaissez l'histoire, il se réconcilie avec ses frères, il fait venir toute sa famille, etc. Et puis, Pharaon désire qu'il reste justement en Égypte. Et c'est magnifique, parce qu'ils vont vivre des années de bonheur en Égypte, où ils auront tout. Parce qu'avec le Nil, les choses poussent bien, il n'y a pas de disette, il n'y a pas de... Tout va bien. Et voilà que Pharaon, ben, il est comme nous tous, un jour il meurt. Et puis Joseph aussi. Et le peuple d'Israël qui s'est multiplié en Égypte, il est là. Malheureusement, le nouveau pharaon ne l'aime pas trop et il va mettre ce peuple en esclavage. Vous connaissez tous l'histoire. Et au bout d'un moment, Dieu va dire, moi je vais délivrer ce peuple. Parce que c'est mon peuple, on ne va pas le laisser en esclavage parce qu'il souffre. Et les douleurs, les souffrances du peuple d'Israël en esclavage en Égypte viennent jusqu'à Dieu. La voix du sang crie à lui et Dieu dit, je vais les délivrer. Alors, il envoie, bien sûr, Moïse est là, et il envoie toutes sortes de plaies. Et à chaque fois, bon, vous connaissez l'eau changée en sang, les grenouilles, enfin, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et puis, la dernière plaie, la plus terrible, il dit, tous les premiers-nés vont mourir. Un soir, tous les premiers-nés vont mourir. Mais Dieu, au travers de Moïse et Aaron, va préparer le peuple à quelque chose d'assez extraordinaire. Hein? Il les prépare à une sortie spectaculaire, je vais dire, vraiment spectaculaire. Alors, il leur dit, écoutez, maintenant, vous allez prendre chacun un agneau que vous allez tuer. Et avec le sang de cet agneau, vous allez le passer sur les linteaux. Et quand moi je viendrai, vous serez en sécurité. C'est ce qu'il nous dit dans Exode 12, le verset 12 à 13. Hein, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est la Pâque que Dieu institue. On fête toujours la Pâque aujourd'hui. Les Juifs continuent à fêter cette Pâque-là, la sortie d'Égypte, et nous, on fête une autre Pâque. Donc, c'est intéressant d'y penser. Hein? Et puis, si on va un petit peu plus loin, dans Exode 12, au verset 11, il dit « Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Dieu protège le peuple au travers du sang de l'agneau. » Mais il leur dit « Soyez prêts. Soyez prêts, ne vous attardez pas. » Parce qu'il va falloir partir en vitesse. Parce qu'il sait très bien que ce qui va se passer. Et il est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et vous savez l'histoire, ils sont tous après le peuple. Et voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais j'aime bien ce parallèle entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Parce que c'est puissant. Jésus, il est venu nous délivrer de l'esclavage. Parce que de la même manière dont on est pécheur, depuis notre naissance, on est esclave de ce péché. Et Jésus est venu nous délivrer de ce péché. Et c'est une réalité. Il est venu délivrer le monde de l'esclavage du diable. Comment ? De nouveau par un sacrifice. Et quel sacrifice ? L'agneau divin, le Fils de Dieu, Christ. Est envoyé sur cette terre, il vient sur cette terre de sa propre volonté. Et il va donner sa vie, on connaît la suite. L'Égypte, c'était l'ombre des choses à venir. Et ce que Jésus a fait, c'est la réalité de notre salut. C'est la réalité de ce que Dieu voulait faire. Et on va voir que c'est sa volonté. De la même manière que le peuple a été couvert par le sang de l'agneau, appliqué sur les linteaux des portes et protéger les habitants de la maison, Jésus nous couvre de son sang. Dès le moment où nous croyons en lui, dès ce moment-là, la couverture du sang de l'agneau est sur nous. C'est quelque chose d'éternel. Ça ne finira jamais. Quand Dieu vous a donné la foi, parce que ce n'est pas nous qui nous sommes donné la foi. Moi, je connais des gens qui sont devenus chrétiens intellectuellement. Ça n'a pas duré. L'ennemi leur a fait un croche-pied. Et ils sont devenus ennemis de Dieu. C'est grave. Mais ça existe, il faut le savoir. Par contre, quand Dieu nous donne la foi, quand Dieu vient dans notre vie, quand Dieu vient nous parler, quand Dieu nous chérit, quand on se sait chéri par lui, ben on chante des chants comme on a chanté tout à l'heure. Des chants qui glorifient, des chants qui sont tout à son honneur. Parce que à lui seul est la gloire, à personne d'autre. À personne d'autre. Si je lis Romains au chapitre 5, les versets 8 à 9, j'espère que vous avez pris votre Bible, hein, parce qu'on va se balader dans quelques versets. Il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Parce que Dieu a une certaine colère. A une colère par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Les injustices, les magouilles, tout ce qui se fait, toutes les choses tordues que l'homme peut faire. Dieu a ça en horreur. Lorsque quelqu'un manipule quelqu'un d'autre pour tirer profit de lui, Dieu a en horreur ces choses-là. Et c'est Kim qui nous parlait de ces choses-là et qui nous disait que Dieu a une colère contre ça. Et un jour, Dieu demandera des comptes à tous ceux qui ont fait des choses qui sont mauvaises. À moi, que dans le parcours, ils rencontrent Jésus. Ou que Jésus vienne à leur rencontre et qu'il touche leur cœur si profondément que leur vie est transformée. Parce que là, il y a une repentance. Là, il y a un face-à-face avec Dieu. Et puis, Dieu te dit, je te pardonne, t'es pardonné. J'ai payé le prix pour que tu sois pardonné. Sois content, tu es pardonné. Il a remis notre péché. Et ça, c'est super. Et ça, ce n'est pas la volonté de l'homme. Si on lit Colossiens 1 au verset 20, on voit que c'était délibéré, que Dieu voulait vraiment nous libérer, nous affranchir de l'esclavage du péché. Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Hein? C'est sa volonté. C'est sa volonté. Il a vraiment, il a voulu. Hein? C'est pas, il ne s'est pas dit, oui, je vais peut-être les sauver, etc. Non, on voit que c'était quelque chose de déterminé de la part de Dieu, de nous sauver vraiment au travers du sang de la croix. Alors, il y a une nouvelle vie qui va s'ouvrir aux croyants. Et si on lit Hébreux au chapitre 9, les versets 13 à 14, il va nous dire quelque chose de très intéressant. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas très bien qui c'est. On suppose que c'est Paul, mais ce n'est vraiment pas sûr du tout. On suppose parce qu'il y a une façon d'écrire, il y a des choses qui nous rappellent les écrits de Paul. Mais on est quand même un peu dans le brouillard, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, l'auteur des Hébreux nous dit ceci. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Wow. C'est puissant. Et on voit combien dans le Nouveau Testament, ce parallèle avec l'Ancien Testament est toujours là. Alors, il y a quand même quelque chose qui est en commun avec les deux alliances, ou si vous préférez, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein, les deux alliances, elles ont été scellées par le sang. Hébreux 9, 16 à 18. Il dit ceci, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. » Alors vous allez me dire, mais bon, pour la deuxième alliance, on sait que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Mais c'est la même chose dans l'ancienne alliance. Dieu a intervenu par la mort de sacrifices d'animaux, et c'est assez. Il y a des traces, les archéologues ont trouvé des traces à Jérusalem assez importantes dans des canaux où le sang coulait. Il faut savoir que c'était continuel, il y avait toujours des sacrifices. On va continuer. Hébreux 9, les versets 19 à 22. On voit ce que Moïse a fait lorsqu'il a compris quelle était l'alliance que Dieu voulait faire. Et Dieu lui dit, voilà, tu vas faire des choses bien précises, et il les fait. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est là où on comprend maintenant pourquoi le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si Jésus n'était pas venu pour se sacrifier et donner sa vie pour nous, on ne serait pas sauvés. On serait peut-être des gens religieux, à suivre des dogmes, à suivre toutes sortes de choses. Mais en tout cas, on n'aurait pas la vie qu'on a aujourd'hui. La vie qu'on a aujourd'hui, c'est une relation avec Dieu. C'est lorsqu'on lit la parole de Dieu, ce n'est pas simplement des règles, des lois et tout un tas de bazar. C'est Dieu révèle sa parole. Il touche à notre cœur. Il nous montre qui il est. Et le sang, par exemple, c'est précieux de savoir ce qu'on est en train de lire. Et de savoir que c'est pour nous. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais il faut savoir que c'est absolument impossible au sang animal d'ôter les péchés.
Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Donc, Dieu a couvert pendant l'Ancien Testament, pendant toute cette période jusqu'à la venue de Jésus-Christ, a couvert les hommes, a réparé leurs fautes. Et pour cela, il fallait sacrifier tous les ans. Mais ça n'a pas ôté le péché. Aucunement. Qu'est-ce qui a ôté le péché? C'est Jésus-Christ. Hein? Hébreux 10, les versets 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Voilà ce que c'est la loi. Hein? C'est l'ombre des biens à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation. Donc, cette loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Celui qui a rédigé l'Épître aux Hébreux était très clair avec la bonne nouvelle. Hein? Par contre, il dit, autrement, on n'aurait pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Chaque année, les gens sacrifiaient des animaux et ça leur rappelait leurs péchés en même temps. Donc le péché était couvert, c'était réparé, c'était expié, mais ce n'était pas ôté. Par contre, Jésus a accompli ce que le sang des taureaux et des boucs n'ont pas pu faire. Hein? Jésus a accompli et il est le sacrifice parfait. Hébreux 10, les versets 11 et 12, il est dit ceci, « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qu'ils ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » La perfection. Hein? Ensuite, Hébreux 12, 24 nous dit ceci, Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi il dit ça? Pourquoi le sang d'Abel? Et si vous retournez, vous connaissez l'histoire d'Abel. Hein? C'est Caïn qui est jaloux de son frère parce que Dieu a préféré son offrande que la sienne. Et Dieu lui dit, le péché couche à ta porte, mais ne rentre pas là-dedans. Sois fort, ne rentre pas là-dedans, tu laisses faire, tu verras, ça va s'arranger. Mais Caïn, il ne réussit pas. Et Caïn, un jour dans les champs, il saute sur son frère, il le tue. Et Dieu va parler. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il parle de la voix du sang. La voix. Hein? Moi, je n'ai jamais entendu mon sang parler. Hein? Mais si quelqu'un fait couler mon sang sur cette terre, mon sang va crier à Dieu. Et Dieu va l'entendre. Et Dieu ne va pas laisser impuni. Ça, c'est sûr. Donc, ce que Jésus a fait, le médiateur de la Nouvelle Alliance, c'est beaucoup mieux que ce que la voix du sang d'Abel. C'est, on ne peut pas retirer ce que Jésus a fait. Parce que le sang de Jésus, il crie à Dieu. Il dit, mais j'ai payé pour Gianni, j'ai payé pour Anne, j'ai payé pour chacun de nous ici. Il crie, c'est son sang qui crie. Et si on sait ça, si réellement on sait ça, est-ce qu'on va devenir encore des chrétiens légalistes? Parce que c'est là où je veux en venir. Hein? Il n'y a rien de plus qui m'horripile que la bonne nouvelle changée en mauvaise nouvelle. Ça me met en colère. J'ai été dans des églises, pas ici, parce que la seule église où je suis allé une fois dans cette église à Tississi, dans le culte anglophone, quand on est arrivé il y a 8 ans, et j'ai dit c'est mon église. Pourquoi? Parce qu'on prêche la grâce. Partout où j'ai vécu, j'ai essayé d'être dans des églises où on prêchait la grâce. Et Dieu a toujours mis sur mon cœur de prêcher la grâce. Pourquoi? Parce que c'est la bonne nouvelle. On ne peut pas la transformer. Mais quand vous êtes dans une église où on vous regarde de travers parce que vous n'êtes pas habillé comme vous devriez être habillé, ou parce que vous ne rentrez pas dans le moule de l'Église, avec ses préceptes, avec toute sa manière de fonctionner. Mais Dieu s'en fout, mais éperdument. La seule chose que Dieu aime, c'est la foi qui est dans ton cœur. La preuve, c'est que l'apôtre Paul, il dit, au bout de sa vie, il dit, j'ai achevé la course, j'ai mené le bon combat et j'ai gardé la foi. Ce qui va rester le jour où vous serez face à la mort, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il y a la foi ou il n'y a pas la foi? C'est ça. Et ce n'est pas tes œuvres qui vont crier ta sainteté devant Dieu. Ce n'est pas les bonnes choses que tu auras faites qui vont crier à Dieu ta sainteté. Rien du tout. Les gens qui pensent ça, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que la seule chose qui va compter, c'est ce que Jésus a fait. Ce n'est pas ce que moi j'ai fait. C'est ce que Jésus a fait. Et il a tout accompli parfaitement. Tout accompli parfaitement. Donc on est libre, on peut vraiment se sentir libre. Pour faire quoi? Pour faire n'importe quoi? Je pense pas. Hein? Je pense pas. Si on va lire dans Hébreux 13, les versets 20 à 21, c'est toujours le même qui parle. Hébreux est très riche dans ce qu'on est en train de parler là. Il dit que la paix, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu a préparé des choses d'avance pour nous. Ce n'est pas à nous de les préparer. Hein? Ce n'est pas à moi de me dire, ah oh, ben moi, j'aime le Seigneur, je vais être pasteur. Hein? Ah, déjà, ça commence mal, parce que ce n'est pas je veux. Dieu, Seigneur, est-ce que tu as un plan pour moi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux me donner un ministère? Est-ce que tu vas m'utiliser? Bien sûr que Dieu va t'utiliser. Mais laisse-le faire. Parce que si tu prétends faire quelque chose pour lui, tu dis, moi, je suis bon là-dedans. Hein? Je suis un bon musicien, donc, ok, je vais faire de la louange. Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui appelle les gens. C'est Dieu qui met les choses dans le cœur des uns et des autres. À être pasteur, évangéliste ou quoi que ce soit, peu importe. Parce que Dieu a de toute façon un ministère pour chacun de vous. On ne sait pas ce que c'est. Mais il n'y a pas de grands et de petits. Hein. Je discutais avec un frère hier, un ami très cher, qui est de passage à Madagascar. Il me dit, bon, c'est un grand musicien. Et il me disait, voilà, quand j'ai rencontré Christ, je voulais être un grand évangéliste, comme Billy Graham. Hein? Combien, dans ma génération, combien voulaient ressembler à Billy Graham? Bon, après, ça a été Richard Bunker, après, ça a été, je ne sais plus quoi, enfin, bon, voilà, quoi. L'homme, il faut qu'il ait ses idoles. Hein? Les hommes ont besoin d'un gourou. Moi, j'ai suivi des gens avec une télévision chrétienne, je vous assure, des évangélistes, hein, en particulier américains, je tairai son nom. Hein. Mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. C'est des gourous. Et les gens aiment avoir un gourou. Mais avec Dieu, on n'a pas de gourou. Le seul, si, on en a un, c'est Jésus. C'est le seul qui va nous enseigner. Mais un homme sur terre le suit parce qu'il a la connaissance. Quelle prétention, quelle horreur. Dieu, par son esprit, nous enseigne toutes choses parfaitement. C'est écrit, c'est marqué. Donc c'est ça qu'il y a à retenir. Donc, en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ah non, on dépasse un petit peu, mais ce n'est pas trop grave. On a le temps, voilà. Le salut nous appartient. Vous savez ça? Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Le salut nous appartient. Amen. Amen. Ouais. Le salut nous appartient. Et ça, seulement grâce au sang de Jésus. Grâce au sang qu'il a versé. Hein? Grâce à son sacrifice. Pas à cause de nos bonnes œuvres. C'est une réalité. Alors, ça c'est la question qu'on attend. Hein? Il a préparé des bonnes œuvres. Et on est appelé à faire des bonnes œuvres et à faire des choses bien en Jésus. Et il faut le faire. Mais la question qui tue, est-ce qu'on ne va plus pécher ? Hein ? C'est ça la question qui tue. Est-ce qu'on ne va plus pécher ? Waouh ! On aimerait bien. Hein ? Autrement dit, on aimerait être parfait. Le problème, c'est qu'on n'est pas parfait. Parce que notre corps est corruptible, et l'apôtre Paul dit qu'en un clin d'œil, ce corps corruptible se transformera en un corps incorruptible. Mais ça, c'est quand il vient. Hein ? C'est à la fin du voyage. C'est là où on va être transformé et on sera rendu pareil à lui. Alléluia, ça c'est extraordinaire. Mais moi j'ai eu beaucoup de mal au début de ma vie chrétienne parce que je croyais qu'il fallait vraiment être parfait, comme vraiment être parfait quoi. Et puis manque de bol, l'ennemi savait très bien mettre une peau de banane sous les pieds ou mettre un caillou que je vois pas et je trébuche et voilà. C'est la condition des hommes. Le simple fait d'être en colère ou d'avoir du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un pour une sombre histoire ou même pas une sombre histoire, si tu as ça dans ton cœur, tu es pécheur. Il faut régler ça. Il ne faut pas le laisser. Il faut réparer l'histoire. En tout cas, faites ton mieux. Paul, il dit, faites ton mieux. Hein, soyez en paix avec tous les hommes autant que cela puisse se faire. Quand on peut le faire, c'est bien. Mais en tout cas, si tu ne peux pas le faire, rejette toute amertume, ressentiment qui pourrait être au fond de toi. Parce que Dieu s'en occupe. Hein ? À moi la vengeance, à moi la rétribution, il dit le Seigneur. On va lui laisser ça. Hein ? Ce n'est pas à nous de nous venger, ce n'est pas à nous de faire des choses vis-à-vis de qui que ce soit. Peu importe ce que la personne nous a fait. Et puis, en finalité, c'est Jean qui nous dit ça. Et je suis sûr, en principe, on le connaît tous par cœur, ce verset-là, c'est 1 Jean 1,9. Hein ? Si tu as trébuché, si tu es tombé, ben confesse ton péché. Viens à Dieu. Ne te sauve pas. Il y a des gens, ils ont péché, ils disent « Ah, je suis plus digne, moi je m'en vais, je quitte l'église, je quitte la foi, ça ne marche pas, c'est pas bon. » J'ai entendu un gars qui avait ce propos-là. Il me dit « La bonne nouvelle, ça ne marche pas. » Il me dit. Lui, il avait compris que lorsqu'il s'était converti, en tout cas, bon, je pense que c'était une conversion aussi intellectuelle. Pour lui, le jour où il a péché, parce qu'il est arrivé telle et telle chose, il s'est dit « Aïe, 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 mais l'évangile, ça ne marche pas. » Et il a tourné le dos à Dieu. Donc, à nous d'être vigilants, parce que l'ennemi, ça fait 2000 ans qu'il s'entraîne. Hein. Il a un petit peu d'avance pour nous. Mais nous, on a le Saint-Esprit, et avec Dieu, on est plus que vainqueurs. Mais soyons vigilants, parce qu'il sait très bien comment nous torturer et nous faire du mal. Moi, j'étais dans un esprit de condamnation pendant des mois, une époque de ma vie, à cause de ça. J'avais pas compris. Mais Dieu est intervenu, et j'ai compris un jour que j'étais vraiment, vraiment pardonné. Que tout ça s'était effacé. Que l'acte qui me condamnait, c'est écrit, ça c'est vous aussi, hein, il est cloué sur la croix. Il s'est oublié, c'est fini, c'est terminé. C'est son sang qui nous purifie. Donc l'importance du sang de Jésus, c'est plus que tout. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et ça, on peut faire. Hein. On peut faire ça. C'est pas compliqué, avec l'aide de Dieu. Ah oui? Moi, je crois. Je crois. On peut. Alors, bien sûr, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, t'es mon frère, hein. Tu m'aimes, hein. Ah ben, voilà, il faut que tu fasses ça pour moi. » Non, pas comme ça que ça marche. Ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche dans l'autre sens. Ça marche, ben voilà, le Saint-Esprit te dit, tu vois, le frère Intel, hein, il dit rien, mais il galère. Il galère vraiment. Tu peux pas lui donner un coup de main. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être financier, mais pas que. Il n'y a pas que les pépettes qui comptent dans la vie. Hein ? Les voules, c'est bien, on en a besoin pour vivre, mais ce n'est pas l'important. Ce n'est pas la grande importance. L'argent, ce n'est pas important. Et pourtant, le diable a fait croire au monde que l'argent, c'était ce qui avait de plus important. C'est ça qui est grave. Hein ? Mais ce qui est le plus important, c'est comment tu aimes ton Seigneur. De tout ton cœur, de toute ta force, ce que disait Priscille. Comment tu aimes ton prochain ? Est-ce que tu as de la compassion pour ton prochain ? Dieu a transformé nos cœurs de pierre en peur de chair. Et ça, on peut vraiment le garder précieusement. Amen. On va prier. Hein? Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité. Merci de, par ton esprit, imprimer dans nos cœurs les paroles importantes, les versets importants que nous avons vus et lus aujourd'hui, qu'ils puissent transformer nos vies, nous faire comprendre davantage qui tu es, davantage ce que tu as fait dans ton amour pour nous, Seigneur. Délivre-nous de toute religiosité malsaine, Seigneur. Garde-nous dans la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a que toi dans tout ça. Et c'est à toi que revient toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Denis. Je pense que c'est...